Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons Madame Francine Misenga-Ngandou. Elle est journaliste à la radio-télévision Malaika émettant de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Bonjour Madame Francine Misenga-Ngandou.
Mes co-débatteurs et bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Maître Jean-Claude Katende, membre de la société civile, il est président de l'Association africaine des droits de l'homme, ASADO en sigle. Il est actuellement vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Bonjour Maître Jean-Claude Katende.
Bonjour Guy Maté, bonjour aux autres panélistes et bonjour aux auditrices et auditeurs de la Radio Okapi.
Et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mbangakak, il est journaliste spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. Bonjour, monsieur Josué Blaise Mbangakak.
Bonjour Guy Maté, bonjour à nos autres copanélistes, bonjour aux très sympathiques auditeurs de Radio Okapi. Et c'est toujours un plaisir, Guy, que toi, tu le sais très bien, de me retrouver là et à partager avec les auditeurs de la belle ville de Kinshasa et ses environs, ainsi que l'ensemble du peuple congolais, sur les sujets de l'actualité. À très bientôt sur la suite du débat.
Merci à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité.
Chronique électorale, espace dédié à l'éducation civique et électorale sur Radio Okapi. Pour toutes vos questions et préoccupations sur le processus électoral, les experts répondent à vos préoccupations chaque vendredi de 11h à 12h dans Okapi Service. Pour participer à cette émission, appelez au 081 89 063 94. Écrivez-nous à service@radiookapi.net. Postez vos questions et préoccupations sur la page Facebook d'Okapi Service.
Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours de ces derniers jours de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Madame Francine Misenga-Ngandou, elle est journaliste à la radio-télévision Malaika émettant de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Maître Jean-Claude Katende, membre de la société civile et le président de l'Association africaine des droits de l'homme, ASADO en sigle. Il est actuellement vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH en sigle. Et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mbangakak, journaliste spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. Au menu de cette émission, difficile processus du retrait du M23, problématique du banditisme urbain en RDC et polémique autour de la proposition des lois dites loi Tchani. Mais nous allons commencer par un commentaire au sujet du séminaire qui a réuni tous les gouvernements pendant 2 jours à Kinshasa. Le chef de l'État a clôturé mercredi 26 avril le séminaire du gouvernement des 2 jours axé sur la consolidation de la cohésion au sein du gouvernement et l'assurance de l'exécution harmonieuse du programme gouvernemental. Pour le chef de l'État, il attend de chaque membre de prioriser de la plus belle manière des actions à impact réel et visible au regard des attentes de la population. Et à cet effet, les différentes agences d'exécution du programme de développement local des 145 territoires étaient associées à ce séminaire dans le but de présenter le niveau d'exécution des travaux sur le terrain. Madame Francine Misenga-Ngandou, cette initiative du gouvernement vous inspire quoi?
Moi, je pense que le séminaire du gouvernement congolais s'avère opportun. Les ministres du nouveau gouvernement qui se sont réunis mardi et mercredi, c'était pour suivre les orientations sur les priorités de l'action gouvernementale, bien sûr, à quelques mois des élections générales en République démocratique du Congo. Et ce séminaire de 2 jours a vu aussi les chefs de l'État insister sur la priorisation, bien sûr, des actions à impact réel et visible et la systématisation de l'activité de suivi et évaluation face aux nombreuses attentes de la population congolaise. Et à la clôture d'Imaté, de ce séminaire de deux jours de travaux, le Premier ministre a déclaré que ce séminaire était une opportunité pour le gouvernement de rappeler les objectifs stratégiques sous-tendant les programmes du gouvernement qui est basé sur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, pour moi, ce séminaire était une belle opportunité pour les chefs de l'État d'exprimer au moins son vœu de bien être accompagné et avoir la collaboration de chacun de ses ministres, c'est-à-dire que tout le gouvernement doit se focaliser sur l'essentiel. Parmi les points essentiels figurent les programmes des 145 territoires.
Merci, Maître Jean-Claude Katende. Ce n'est pas la première fois que de telles initiatives sont prises. On se rappelle les séminaires organisés par le gouvernement Ilunkamba au Congo central en 2019. Et chaque fois, on se rend compte qu'après ce séminaire était égal à avant ce séminaire, étant donné qu'au lieu que la gouvernance s'améliore, et elle ne fait que se détériorer. Et à votre avis, qu'est-ce qui peut être fait concrètement pour que ce type d'initiative impulse un autre mode de gestion beaucoup plus efficace?
Je vous remercie, Guy Maté, pour la question. Je note effectivement que votre observation, elle est aussi la mienne. C'est vrai, les séminaires se tiennent, mais l'exécution, le respect des engagements, des instructions qui ont été données ne suit pas. Et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que vous allez constater que les ministres qui vont se comporter contrairement à ce qui est partagé par lors du séminaire ne sont pas du tout sanctionnés. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que à ce genre de séminaire, on n'associe pas l'administration. Comme vous savez, les ministres ont des cabinets politiques. Mais ceux qui s'occupent de la mise en œuvre au quotidien des choses qui sont décidées par le gouvernement, c'est l'administration. Particulièrement les secrétaires généraux, ainsi que les membres de leur administration, ils sont totalement mis de côté. Ce qui fait qu'il y a un décalage entre ce que le gouvernement voit et ce que les administratifs voient. Et un autre problème, c'est que les fonctionnaires aujourd'hui accusent plusieurs mois d'impayement. Comment vont-ils s'engager à mettre en œuvre ce que les ministres ont appris là-bas? Troisième cause, c'est le fait que au niveau de la présidence de la République, vous avez des conseillers qui veulent se comporter comme des ministres. Il y a certaines questions de la gestion quotidienne, n'est-ce pas, qui doivent être mises en œuvre par les ministres dont les membres du cabinet du président de la République, les conseillers s'occupent. Ce qui fait que des fois les ministres ont des réserves d'intervenir là où les conseillers du président de la République interviennent. Et pour toutes ces raisons-là, j'estime personnellement que ce séminaire ne va pas aboutir à des actions à impact réel comme le veut le président de la République. Et donc, ce qui doit être fait, il faut qu'on embarque les administrations dans ce genre de séminaire et en même temps qu'on donne des instructions claires aux conseillers du président de la République qui ne sont pas membres du gouvernement et qu'on laisse aux ministres faire leur travail et que le ministre qui ne se conformerait pas à ce qui a été décidé lors du séminaire soit sanctionné et que le peuple puisse le savoir. Si on ne le fait pas, je suis sûr que l'observation que vous avez faite en introduction va encore se révéler être vraie.
Merci Josué Blaise Mangakak. Quelle pourrait être l'approche ou les approches que doivent utiliser les États africains pour améliorer leur gouvernance?
Une fois de plus, merci. Je crois que la peinture qui a été faite par Maître et puis par ma jeune consoeur vont dans le sens de ce qui constitue les goulots d'étranglement de la plupart des gouvernements africains. À un moment donné, on a l'impression qu'il y a des gouvernements bis. Le gouvernement exécutif et la pléthore de conseillers autour du président de la République qui généralement sont très puissants que les ministres eux-mêmes. Donc on a beau faire des séminaires avec tout ce que cela comporte en termes d'angélisme, des déclarations, les résolutions merveilleuses qu'on peut prendre, tant qu'il y aura, comme l'a si bien dit maître, d'un côté le gouvernement exécutif et la pléthore des conseils autour du chef de l'État, ça fait toujours des boulets à traîner et des boulets d'étranglement. À mon avis donc, ce séminaire n'est pas blâmable, il faut continuer de le faire justement après un remaniement du gouvernement comme celui qui vient de se passer, et avec l'entrée des poids lourds tels que Jean-Pierre Bemba ou Vital Kamerhe, qui sont pas des ministres comme les autres, il y a une démarche qui consiste déjà à harmoniser les points de vue et à vouloir faire comprendre à tout le monde l'utilité de la cohésion gouvernementale. Mais il peut y avoir des cohésions, mais il y aura toujours des ministres qui sont des véritables mini-gouvernements à l'intérieur du gouvernement, parce qu'ils sont plus des politiques que des technocrates. Ils nécessitent une gestion assez particulière. On ne gère pas Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe comme le reste, parce que déjà, ils sont des présidentiables à qui on souhaite qu'ils ne se présentent pas, qu'ils soient plutôt dans l'équipe. Donc ils ont une marge de manœuvre un peu plus grande que les autres ministres, à qui les conseillers à la présidence peuvent réduire, comme peau de chagrin, l'effectivité de leur pouvoir. Donc les séminaires c'est bien, mais il faudrait que le président soit toujours vigilant et qu'il soit très présent pour donner le cap.
Merci. On prend une petite pause avec IGF, une chanson de Kofi Olomide, et on revient tout de suite après.
Peuple congolais, tous derrière l'IGF, dans sa lutte contre les détournements des fonds publics, la lutte décrétée par le président de la République, Fatih Beton, Félix Tshisekedi.
Est-ce que vous avez bien Souci à peu près à la canabinote, bino vos avatés de tort, autant de canapati à bas congolais. Est-ce que vraiment vous voyez comme Fongi, après tout ça, le vin de tournement, au petit l'état devient 200 millions, au lobby et à vous, ton abopito. Utiliser caca 20 millions pour notre voyage intérêt général 180 millions soyaïo.
Maho Pito est ton amité.
Est-ce que vraiment vous en amitié ma? Est-ce que vous êtes l'amour ya Congo? Inimi ya Congo et Zali
congolais. Maho Mawa.
C'était IGF, une chanson de Kofi Olomide. À travers cette chanson, Kofi Olomide dénonce certaines antivaleurs, notamment la corruption et le détournement des deniers publics. On revient à l'actualité de cette semaine. Une réunion entre le gouvernement congolais et la délégation de la communauté d'Afrique de l'Est s'est tenue au ministère des Affaires étrangères jeudi 27 avril à Kinshasa. Le gouvernement congolais a été représenté par le vice-premier ministre, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la décentralisation, le ministre de la communication et médias et le vice-ministre de la défense ainsi que les hauts représentants du chef de l'État. La délégation de l'EAC a été conduite par son secrétaire général. Au menu, le suivi du processus de paix de Nairobi et la question de la force régionale qui opère dans l'est de la RDC. Des échanges devraient permettre de trouver des pistes de solutions au rétablissement de la paix dans l'est du pays et le retour des déplacés dans leur milieu. Lundi 24 avril, dans une conférence de presse à Goma, l'ancien commandant de la force régionale de l'EAC, le général Jeff, a déclaré que le retrait du M23 des zones occupées ainsi que les cantonnements des combattants de ces mouvements rebelles sont des questions politiques qui ne relèvent pas du mandat de la force militaire EACRF. On rappelle que le général kenyan Jeff Nyanga a déposé sa démission jeudi 27 avril. Selon plusieurs médias, Kinshasa lui reproche son inaction face au M23 tandis qu'il dénonce des intimidations et pressions politiques. Dire que la force régionale de l'EAC ne vient pas combattre les groupes armés, notamment les M23, c'est dire totalement le contraire de ce qui est prévu. Affirmation du vice-premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui réagissait ainsi à la déclaration de son homologue kenyan qui avait réitéré les propos du général Jeff Nyaga. Joseph Blaise Mbangaka, que vous êtes journaliste camerounais, spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie, et pourquoi vous avez opté pour ce sujet?
Disons que c'est un sujet déjà qui, pour nous autres Africains, nous interpelle au premier chef parce que, à longueur de journée, les jeunes Africains et même un peu plus âgés se parlent de la guerre Ukraine-Russe, alors que juste au chevet de Noli, il se passe quelque chose à Goma, au Nord Kivu, à RDC, qui intéresse très peu de gens. Les médias africains et même les médias internationaux s'en occupent très peu. Des milliers de morts, enfin des milliers, j'exagère un peu, des morts au carreau qui s'élèvent de plus en plus en nombre considérable, m'interpellent, et en tant qu'un des doyens de la presse africaine, à en faire de ça un sujet de premier plan. Voilà pourquoi j'ai opté pour ce sujet, tout simplement.
Et si ces processus évoluent de cette manière, est-ce qu'il n'y a pas risque que les conflits s'enlisent, M. Josué Blaise Mangakake?
Disons que quand il y a une approche qui n'est pas idoine, idéale et idéale, on finit par passer à côté du sujet. Et comme on disait tout à l'heure, quand le président est entouré à la fois des visiteurs du soir qui mettent des sentiments dans le cadre des négociations, on passe toujours à côté de l'objectif. Depuis que cette guerre a commencé, la moutarde a monté, on a l'impression qu'on passe à côté du sujet. Le M23 chaque jour prend de l'ampleur. Le M23 chaque jour prend du volume. Le président rwandais, qui est, on aime ou on n'aime pas, il faut faire attention, est très apprécié par les jeunes Africains, qui a changé complètement son pays, qui était un pays francophone, un pays anglophone. Tous ceux qui vont à Kigali te disent le pays est propre. Tu entends des jeunes dans les réseaux sociaux, même au quotidien. Si chaque pays avait un Kagame, on serait pas là. Donc il faut tenir compte qu'il jouit d'une réputation très positive auprès d'une certaine opinion largement répandue sur le continent. Ce qui fait que quand il sort d'une voie, il est très écouté par rapport à certains, je n'ai nommé personne. Par exemple, la dernière sortie qu'il a dit lorsqu'il était en voyage au Bénin, en disant que l'histoire est témoin que le Rwanda, dans sa position géographique et sa position de la carte, est celle qu'une partie se trouve à RDC. À ce jour, je n'ai pas eu l'impression que quelqu'un lui a apporté une contradiction véritable en démontrant par des médias qui vont au-delà de la RDC, par une traçabilité, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai. Et maintenant, dans les mouvements des guérillas, vous savez, c'est une guérilla qui est mélangée d'une guerre conventionnelle. La population parfois peut être retournée parce qu'elle est délaissée souvent par le pouvoir central. Parce que les gens qui généralement sont loin de la capitale et de la province, ils vivent tranquillement dans les villes douillettes, par exemple à Kinshasa. Et parfois, les membres de la guérilla les proposent un peu de riz et puis quelques poissons. Et se retournent parfois, à cause de gens qui vivent du nombril aux orteils, à cause de la famine, à être des antipatriotes involontairement. Et maintenant, le M23 lui-même, c'est une puissance. On aime ou on n'aime pas, on ne fait pas la gestion géopolitique avec les sentiments, j'aime tel ou j'aime pas tel. Parce que toutes les guerres du monde ont fini par une négociation autour de la table, quelles que soient les guerres, qu'elles soient israélo-arabes, qu'elles soient, on finit toujours par s'asseoir et trouver les résolutions. Évidemment, les extrémistes, de part et d'autre, du Rwanda comme de la RDC, disent que non, pas question, le M23 est hors sujet, il ne faut pas en parler. Bon, je crois qu'il faut tenir compte de coincer le belligérant et tenir l'opinion publique nationale et internationale en allant sur des tables de négociation de savoir ce qui est négociable et non négociable. On dit au M23, on se retrouve ensemble, on va discuter, mais sachez que ça c'est négociable et ça c'est pas négociable. Si vous voulez pas, voilà donc maintenant la nouvelle option, on va vous faire la guerre. Mais ne pas négocier, c'est une position de radicaliser davantage d'autres partis qu'est le M23.
Merci Maître Jean-Claude Katende, membre de la société civile. Vous êtes président de l'Association africaine des droits de l'homme ASADO en sigle. Vous êtes actuellement vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme FIDH en sigle. Vous, en tant que membre de la société civile et défenseur des droits humains, quelle est votre lecture par rapport à ces processus difficiles du retrait du M23?
Merci beaucoup Guy Maté pour la question. Je note d'abord que à plusieurs reprises, moi-même comme l'organisation à laquelle j'appartiens, la ZADO, nous avons conseillé au président de la République ainsi que aux autres membres du gouvernement par nos différentes publications que la venue des troupes de l'EAC n'allait apporter aucune solution à ce qui se passe à l'est de notre pays. Pour plusieurs raisons, notamment le fait que l'Ouganda était déjà impliqué dans la guerre en République démocratique du Congo il y a quelques années, et il y a eu même une bataille à Kisangani pour des intérêts économiques et financiers entre l'Ouganda et le Rwanda. Ça veut dire en d'autres termes que nous avons là des troupes qui ont intérêt à venir en République démocratique du Congo, pas pour faire la guerre ou participer, contribuer positivement à la stabilisation du pays, mais à tirer des profits, notamment en s'adonnant à l'exploitation illégale des minerais à l'est de notre pays. Donc, il fallait que le gouvernement réfléchisse à une autre solution, et la meilleure solution, c'est de travailler à la réforme des forces armées de la République démocratique du Congo. Un pays ne peut pas être en aucun cas protégé éternellement par les troupes étrangères. Et une autre alternative serait que notre pays puisse avoir des troupes par des conventions bilatérales, notamment avec l'Angola, sur tous les pays qui n'ont pas encore participé à la guerre. Au-delà de la demande faite par notre gouvernement, il y a le Congo-Brazza, il y a le Gabon, il y a le Tchad. On pouvait négocier avec ces pays pour qu'ils envoient les troupes au Congo. On a préféré l'EAC, mais nous savons que, comme un de nos panélistes a dit, non seulement les jeunes Africains, mais il y a aussi beaucoup de présidents, et particulièrement à l'est de l'Afrique, qui trouvent en fait chez Kagame un modèle et qui ont du respect pour lui. Et donc, nous pensons que ces troupes ne pouvaient rien faire de conséquent contre le Rwanda. Et nous sommes là devant un fait accompli, c'est qu'aujourd'hui, même les points qui sont inscrits au mandat de ces troupes de l'EAC n'est pas exécuté parce qu'on dit qu'on n'est pas là pour assurer le retrait du M23. Mais ils sont là pour quelle raison? Ils ne peuvent pas faire la guerre. Et ils remettent tout à la politique. Nous estimons pour notre part que ces troupes ne sont capables de rien. Ce que la République démocratique du Congo doit faire, c'est de demander tout simplement que l'EAC retire ses troupes, n'est-ce pas, de notre pays. Il faut aussi souligner le fait que même si les territoires étaient remis à l'EAC, on ne peut pas accepter que même sur le plan de l'administration, que ces territoires soient dirigés ou contrôlés par des troupes étrangères. Il faut que l'administration soit remise. Si le contrôle, la surveillance des territoires peut être assurée par l'EAC, mais il faut au moins que l'administration soit assurée par des personnes civiles congolaises. Et ça, pour nous, c'est vraiment important. Et nous nous rendons de plus en plus compte que certaines décisions du côté de la République démocratique du Congo sont prises dans la précipitation et que cela exige que le président de la République soit entouré vraiment des personnes qui connaissent ces milieux là-bas et qui peuvent l'aider à prendre des bonnes décisions.
Merci, Madame Francine Misengangandou, journaliste à la radio-télévision Malaika et mettant de Lumbashi dans les Haut-Katanga. Et quelle devrait être l'attitude du gouvernement congolais si la situation ne change pas? Si en dépit de toutes les réunions qui sont tenues à Kinshasa et ailleurs, la situation sur le terrain ne change pas, le gouvernement congolais devrait-il rester passif ou plutôt entreprendre des actions pouvant, n'est-ce pas, lui permettre de faire bouger les lignes?
Guy Maté, sur cette question, elle est très brève. Moi, je pense qu'il est important que les acteurs régionaux et internationaux travaillent ensemble pour trouver des solutions durables aux conflits qui sévissent dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Mais il est clair que cela ne peut être réalisé que si toutes les parties prenantes respectent les processus de paix initiés à Luanda, à Nairobi ainsi qu'à Bujumbura.
Et à votre avis, au vu de ce qui se passe sur le terrain, avec ces retraits timides du M23, peut-on dire qu'on est déjà là dans une impasse?
Dire qu'on est dans une impasse, moi je pense qu'il faut donner juste un peu de temps à tout ce qui se passe dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais ce qui est vrai, c'est que le gouverneur de la province du Nord Kivu a peut-être raison de parler de cette timidité, de cette froideur avec lesquelles les mouvements M23 sont en train de se retirer.
Merci, on prend une petite pause. Chères auditrices et chers auditeurs, l'actualité en RDC, c'est aussi l'actualité musicale. Le 24 avril dernier, l'on a commémoré la disparition de Papa Wemba, qui vient de totaliser 7 ans dans l'au-delà. Pour lui rendre hommage, on va écouter Safari et on revient juste après.
Yango ya mecho imenitoka na huruma kwa kuona watu wawili wanakabulana, mwingine naenda mwingine nabaki ya huruma juu ya safari safari oh, safari umeumiza moyo wende wende ndugu isha masiku kwa nguvu ya Mola tutaonana tena. Shafika takutumia mukanda wakujulisha minefita uzima safari 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 umeumiza moyo wende wende ndugu kisha masiku kwa nguvu ya Mola tutaonana tena. Wanasafiri kwa ndege, watu wengine wanasafiri kwa mashua. Ah, ah, watu wengine wanasafiri kwa gari, watu wengine wanasafiri kwa miguu.
Revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire sur le séminaire des membres du gouvernement qui s'est tenu à Kinshasa du 25 au 26 avril. Nous avons également analysé le difficile processus du retrait du M23 des localités qu'il occupe au Nord Kivu. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Francine Misengangandou, elle est journaliste à la radio-télévision Malaika et émettant de Lubumbashi dans les Haut-Katanga. Maître Jean-Claude Katende, membre de la société civile et il est président de l'Association africaine des droits de l'homme Matadou en sigle. Il est actuellement vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme FIDH en sigle. Et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mbangakak, journaliste et spécialiste des questions d'histoire et de géostratégie. Le Premier ministre Sam Maloukonde a promis vendredi 21 avril des sanctions sévères contre les auteurs des actes de banditisme et de délinquance juvénile à travers le pays. Il a pris cette décision au cours de la 59e réunion du Conseil des ministres du gouvernement central tenue par vidéoconférence. Tenant compte de l'ampleur de ce phénomène, le chef du gouvernement a annoncé dans les jours à venir la tenue d'une réunion urgente sur cette question avec des ministres sectoriels ainsi que des services de sécurité concernés, a fait savoir Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, a en vue de dégager un plan robuste et holistique pour l'éradication définitive de ces phénomènes connus à Kinshasa comme le phénomène Kuluna. Madame Francine Misengangandou, vous avez choisi ce sujet. Qu'est-ce qui motive ces choix?
Le pourquoi de ces choix se justifie par les constats menés sur l'afflux de ces jeunes gens dans presque toutes nos rues où il devient quasi difficile de se promener paisiblement le jour comme la nuit. Et cela, c'est malgré l'acheminement de certains d'entre eux en deux vagues, par exemple ici dans la province du Haut-Katanga. Deux vagues de ces jeunes délinquants ont été acheminés à Kanyamakassi, c'était le 8 mai et le 16 juin de l'année dernière. La première vague était de 320 personnes et la seconde de 350, ce qui a donné un total de 670 personnes. Au regard de la quiétude troublée dans la province du Haut-Katanga, je parle de la province du Haut-Katanga, où j'ai vu, on dirait que si 670 personnes acheminées ne représenteraient qu'une goutte d'eau dans l'océan. Lancer un SOS à l'autorité provinciale pour qu'elle essaie d'éradiquer ces phénomènes, pas à 100%, bien sûr même à 90%, auxquels se donnent les jeunes désœuvrés qui prend de l'ampleur chaque jour qui passe et dont sont victimes très souvent les femmes et les jeunes filles qui se voient extorquer leurs biens une fois tombées dans les filets des délinquants, en tout cas fustiger aussi le banditisme urbain dans l'un des modes opératoires depuis un bon bout de temps, mais seulement pas celui de faire effraction la nuit dans les parcelles pour cambrioler et donner des coups de machette aux infortunés, mais aussi de tuer les gens, les envelopper dans des sacs, puis les jeter dans des coins stratégiques. Les combles années comme moi de février dernier, ces corps sans vie avaient été retrouvés dans l'intervalle de 7 jours. Et les circonstances de meurtre étaient presque les mêmes. C'est pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet sur le banditisme urbain et la délinquance juvénile.
Oui, Lubumbashi, Goma, Kinshasa, Matadi, Kolwezi, pour ne citer que cela, aucune ville de la RDC n'est épargnée par le banditisme et la délinquance juvénile, au point que certaines personnes commencent à se demander si l'État existe effectivement dans ces pays. Madame Francine Misengangandou, comment cette situation est vécue par la population de Lubumbashi?
C'est la peur, je vous dis, c'est la peur. Donc on ne sait pas très bien circuler, que ce soit la journée, que ce soit la nuit, parce que ces jeunes gens peuvent surgir à tout moment. C'est la peur qui sévit ici à Lubumbashi. Heureusement, il y a l'autorité provinciale qui s'est impliquée. Donc pour le moment, je peux parler de la difficulté à laquelle est butée la population de Lubumbashi. Mais on a vu l'autorité provinciale s'impliquer pour essayer de lutter contre ces phénomènes.
Merci. Maître Jean-Claude Katende, le Premier ministre Sama Lukonde parle d'un plan robuste et holistique pour l'éradication définitive, n'est-ce pas, de ces phénomènes. Est-ce qu'on n'est pas là encore dans un jeu de mots sans contenu, ou c'est plutôt un plan pour corriger l'approche Kanyamakasese, étant donné que envoyer les colonnes à Kanyamakasese n'a pas suffi, n'est-ce pas, pour décourager le banditisme et la délinquance juvénile?
Monsieur Guy Maté, il est clair que nous sommes contents de constater que enfin le Premier ministre quitte son sommeil. Et je constate qu'il n'a pas le temps de suivre certaines télévisions locales ici à Kinshasa qui montrent régulièrement les méfaits des actes criminels qui sont posés par les Kulouna au jour le jour. Je pense que s'il le faisait, il prendrait pareille mesure depuis bien longtemps. Mais comme on dit, vaut mieux tard que jamais, et nous lui faisons confiance en nous disant certainement que le plan dont il parle robuste va être mise en place, non seulement pour la ville de Kinshasa, où certains quartiers dans certaines communes sont totalement contrôlés par les Kulouna, mais je suis d'accord aussi avec madame qui parle de Lubumbashi. Moi-même, j'y étais il y a quelques semaines, mais c'est tout le monde qui s'empresse le soir pour rentrer à la maison, compte tenu du fait que l'insécurité est de plus en plus croissante dans cette ville. Mais il faut aussi noter Goma, Bukavu, Matadi, ainsi de suite. Mais je pense que le Premier ministre, dans ce plan robuste, il doit se rendre compte qu'aujourd'hui, la police nationale congolaise, particulièrement à Kinshasa, n'est pas en mesure de dompter le Kulouna pour plusieurs raisons. L'une de ces raisons, c'est le fait que, au sein de la police elle-même, il y a certains policiers qui ont été des Kulouna et qui travaillent de connivence avec leurs collègues qui sont restés dans la société. En sorte qu'aujourd'hui, la police se décourage de pouvoir intervenir dans certains quartiers. C'est pour ça que nous avions proposé au nouveau vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Peter Kazadi, qu'il faut créer une police spéciale préparée, équipés, bien payés pour pouvoir traquer les Kulouna. Et nous avons été contents d'apprendre la semaine dernière qu'il y a de nouveaux éléments de la police qui étaient en formation des 6 mois, si je ne me trompe pas, à Kasangoulou, qui vont être affectés effectivement dans les communes à problème pour pouvoir traquer les Kounouna. Je pense que c'est une bonne chose de mettre dans la police du sang nouveau. Mais une chose aussi est claire, c'est que les policiers sont très mal payés, en sorte qu'ils ont des problèmes pour pouvoir s'exposer face aux Kounouna pour un salaire, je dirais, tout simplement, un salaire de misère. On n'a pas honte à le dire. Je pense qu'il est important que le gouvernement, dans ce plan Robis, puisse penser à l'équipement des policiers, puisse penser à une rémunération conséquente pour les policiers et surtout travailler avec les nouveaux policiers qui arrivent, qui pourraient avoir un esprit différent de ceux qui sont sur terrain, qui sont devenus presque des amis des Kounouna et qui se partageraient même les butins conquis par les Kounouna avec eux.
Merci Josué Blaise Mangakak. Ce phénomène n'est pas observé seulement en RDC. Hein. Ce n'est pas l'apanage de la seule RDC. C'est tous les pays africains qui sont affectés par ce phénomène. Et tous les experts s'accordent sur la logique selon laquelle ce phénomène prend de l'ampleur du fait du déficit de l'autorité de l'État. Y a-t-il des pesanteurs auxquels font face les États africains dans les processus de restauration de leur autorité? Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas un chantier facile à réaliser, M. Josué Blaise Mangakak.
Déjà, j'ai fait mienne la quasi-totalité des propos tenus par Maître, à qui j'ai dit encore une analyse froide, vraiment sans passion ni chauvinisme, qui peint là les réalités de ce phénomène qui gravite autour de nos cités et qui ne cesse d'aller de façon grandissante. Je pense qu'un des phénomènes comme celui-là ne peut être stoppé qu'à un moment où une ou deux personnes proches des grandes personnalités sera vraiment victime. Si l'épouse ou le fils de l'un des dignitaires du régime est frappé par ces gens, je crois que ça va secouer plus de cocotiers que l'ensemble des discours. Parce que tant que ça fait des gorges chaudes dans les quartiers populaires, à la limite, les laissés pour compte, qui sont du juste bétail électoral, dont on ne vient voir que pendant les élections, en réalité, ça n'intéresse pas les décideurs. Mais le jour où on fera ça à l'épouse d'un dignitaire à la sortie d'un supermarché, ou un de ses fils venant de vacances à l'aéroport, etc., il y aura même un conseil ministériel extraordinaire pour essayer de créer une force spéciale et trouver la chaîne.
Et pour les dirigeants politiques qui seraient conscients du danger, n'est-ce pas, de ces phénomènes, qui auraient la volonté d'éradiquer ces phénomènes, quels peuvent être les pesanteurs devant lesquels ils font face et qui ne leur permettent pas, n'est-ce pas, de restaurer l'autorité de l'État?
Déjà au sein des corps habillés, Maître l'a dit si bien, il y a des gens qui entretiennent ces gens et qui en réalité les ramènent le pactole et puis il y a même des armes qu'on sous-loue qui sont en location auprès de ces malfrats. Et quand ils amènent le butin, le chef n'est pas le vrai chef bandit, il est dans la police et la gendarmerie. Donc les grosses mécaniques que vous voyez, les têtes couronnées, les corps habillés roulés, mécaniques, et souvent c'est pas de l'argent qui vient d'ailleurs, vous croyez que c'est difficile de mettre la main sur ces gens-là, c'est un jeu d'enfant, mais parce que ça nourrit beaucoup de gens dans les corps habillés. On sait qui fait quoi. Il y a des mesures de contrôle, on anticipe. Il y a des écrans qu'on peut mettre dans tous les coins de grandes villes qui peuvent avoir des rayons de filmer tout quand on veut. Il suffit d'aller reprendre des bobines, on retrouve qui est qui. Et dans la police de proximité, on sait qui habite dans le quartier, qui ne fait rien et qui est en train de vivre ainsi, qui a des entrées ici, qui ne l'a pas. Vous croyez que on n'a pas besoin d'être Jésus-Christ ou Mohamed pour le détecter, on le sait, mais on laisse faire. Parce que tant que ça n'a pas ébranlé le véritable noyau du système politique, à la limite, c'est un sujet subalterne. Donc, on sait ce qu'il doit faire. Je vous tiens pour informer. Le jour où vous verrez l'épouse d'un des dignitaires ou un des fils, vous verrez comment ça va être fait en un temps record. D'abord, on retrouvera les bandits là en question et on va quadriller, on saura qui est qui. Mais s'il faut maintenant l'éradiquer, il faut anticiper, mettre les panneaux de contrôle qui filment l'ensemble des faits et gestes dans des quartiers chauds et même dans les beaux quartiers. Ça serait déjà quelque chose de gagné. Et puis maintenant, être très sévère lors du recrutement de la police et de la gendarmerie.
Merci. On va prendre une petite pause en écoutant Chiquitita de Abba et on revient tout de suite après. C'était Chiquitita, c'est un classique du célèbre groupe suédois ABBA, et donc ce qui a fait parler de lui vers les décennies 70 et 80. Je rappelle que nous avons dans cette émission Madame Francine Misengangandou, journaliste à la radio-télévision Malaika émettant de Lubumbashi dans les Haut-Katanga, Maître Jean-Claude Katende, membre de la société civile, il est président de l'Association africaine des droits de l'homme ASADO en sigle, il est actuellement vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme FIDH en sigle, et en ligne depuis Yaoundé, capitale du Cameroun, Josué Blaise Mbangakak, journaliste et spécialiste des questions d'histoire et des géostratégies. La proposition de la loi qui verrouille certains postes de responsabilité dont la présidente de la République au sol congolais né des pères et des mères, appelée loi Tchani, pourrait bientôt être examinée au Parlement, un projet qui suscite la polémique. Lors d'une communication au cours de la plénière de jeudi 20 avril, le président de l'Assemblée nationale a évoqué cette proposition de loi déposée à son bureau et alignée dans les calendriers de la session de mars en cours. Il a tout aussi fait allusion au dernier balai diplomatique à son bureau en rapport avec cette initiative parlementaire. Mbosso annonce que la proposition sera discutée si elle est alignée. Les jours où ça sera aligné, ça sera discuté. Si ça n'énerve pas la Constitution et les autres lois, nous déciderons, nous tous, librement et souverainement, a-t-il conclu. Maître Jean-Claude Katende, vous avez opté pour ce sujet. On peut savoir pourquoi.
Merci, Monsieur Guimaté. Je pense que la proposition appelée loi Tchani suscite beaucoup de débats en République démocratique du Congo Et ce sujet est resté dans l'actualité et restera encore pendant longtemps dans l'actualité. Et la première raison pour laquelle j'ai proposé ces sujets, c'est compte tenu des impacts positifs ou négatifs que cette proposition de loi pourrait entraîner au sein de la population congolaise si une fois elle est discutée, adoptée et promulguée. Deuxième raison, c'est le fait que la semaine dernière, j'ai mené une petite étude pour voir en Afrique s'il y a des États qui ont des lois, des constitutions pareilles à ce que M. Tchani propose. Troisième raison, c'est de dire que souvent, on parle de la loi sur la congolité. Je ne pense pas que la loi Tchani remit la nationalité congolaise à qui que ce soit. Et c'est pour ça que je suis heureux des terminologies que vous avez utilisées dans votre introduction qui parle de verrouillage de certains postes de souveraineté. Par contre, dans d'autres pays, quand on parle par exemple de l'ivoirité, ça veut dire retirer à certains Ivoiriens la nationalité ivoirienne pour une raison ou pour une autre. Je pense que c'est pas ça que la loi Tchani vise et que c'est pour toutes ces raisons que j'ai proposé qu'on puisse discuter de ce sujet.
Oui, c'est une question qui divise. Hein. Il y a une opinion qui est favorable parce que selon elle, selon cette opinion, donc, c'est le moment opportun pour protéger les pays de toute éventuelle infiltration. Et par contre, il y a cette autre opinion selon laquelle c'est plutôt en ce moment-ci qu'il faut éviter aux pays des démarches qui peuvent préjudicier la cohésion nationale. Et pour cette opinion, cette proposition de loi est capable justement de fragiliser cette cohésion nationale. Maître Katende, comment départager les deux tendances?
D'abord, je voudrais dire, M. Guimaté, que c'est avec pincement au cœur que j'ai fait la proposition de ces sujets, parce que c'est un sujet qui est débattu sur base des passions, chez les uns comme chez les autres. En sorte qu'il suffit que tu donnes la raison pour appuyer la loi, on te classe déjà dans une catégorie bien précise. Si tu donnes des raisons pour rejeter la loi, on va te classer aussi. Donc, on ne va même pas dans les débats scientifiques. Et c'est pour ça qu'il y a une semaine, j'avais fait une page d'opinion libre où j'exprime mes opinions sur les sujets d'actualité, où j'ai demandé aux professeurs d'université de la République démocratique du Congo d'intervenir de manière scientifique sur ces questions. Mais on constate que tout le monde débat de la question, mais il n'y a pas un apport scientifique des professeurs indépendants, s'il y en a encore en République démocratique du Congo. C'était mon interpellation. Mais la première chose que je voudrais noter, c'est que dans sa forme actuelle, cette loi, elle est contraire, n'est-ce pas, à la constitution de la République démocratique du Congo. Mais il ne faut pas qu'on donne l'impression que cette loi, elle est propre seulement à la République démocratique du Congo. Quand vous allez en Tunisie, j'ai lu la constitution tunisienne, pour être candidat président de la République, il faut être de père et de mère tunisien. Mais eux, ils vont encore plus loin. Il faut aussi que vos grands-parents et grands-mères soient aussi des nationalités tunisiennes. Si vous allez en Algérie, vous devez être d'abord de la religion musulmane. Ça veut dire que toute personne qui n'est pas de la religion musulmane ne peut pas prétendre à la magistrature suprême. Mais ils ajoutent aussi, il faut être des pères et des mères algériens. Maintenant, pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, tout dépend des raisons passées et des raisons actuelles et futures. Mais en ce qui concerne cette loi, je dis tout simplement que elle pose problème parce que elle arrive dans une période suspecte, à la veille d'une élection. Et la proposition que moi je fais, si la loi doit être débattue et adoptée et promulguée, il faut qu'elle ne puisse pas être appliquée à la prochaine élection, mais qu'elle vienne à l'élection de 2028, qu'on laisse les candidats actuels qui ont proposé leur candidature en fonction des lois qui existent, postuler comme tous les autres.
Merci. Madame Francine Missengangandou, quelle est votre lecture par rapport à cette proposition des lois dites loi Tchani?
Guy Maté, la proposition des lois Tchani qui vise à réserver certains postes de responsabilité dans la présidence de la République aux seuls Congolais nés des pères et des mères suscite déjà des divisions et provoque des réactions sensibles dans la sphère politique. Vous le savez, certains soutiennent que cela renforce la souveraineté nationale et protège les intérêts des Congolais, et tandis que d'autres la considèrent comme discriminatoire et contraire aux valeurs universelles des droits de l'homme et pensent cibler une région ou une catégorie de personnes données. Alors il convient également de souligner que la proposition de loi dite loi Tchani soulève des questions importantes concernant l'égalité des chances et l'accès aux postes de responsabilité pour tous les citoyens indépendamment de leur origine ou de leur statut familial. En effet, la discrimination basée sur ces critères est contraire au principe d'une société démocratique et équitable. Alors, dit, il est donc essentiel que les autorités congolaises et les acteurs politiques impliqués dans cette question prennent en compte ces préoccupations et travaillent ensemble pour trouver des solutions justes et surtout équitables pour tous les citoyens de la République démocratique du Congo. Et enfin, de compte, le respect des droits et des libertés fondamentaux de tous les citoyens doivent être la priorité absolue pour toutes les décisions prises par les autorités congolaises.
Merci. Josué Blaise Mangakak, de Cameroun, où vous êtes, comment vous percevez cette question?
Déjà qu'il faut toujours se dire que le texte dépend du contexte. C'est-à-dire que si un texte comme celui-là est pris bien avant les élections présidentielles, 4-5 ans à l'avance, on a l'impression que ça ne vise personne. Vu lorsqu'on se retrouve hors de la RDC, la grande opinion qu'on a, c'est-à-dire que le texte Tchani est venu éliminer le candidat, pas plus ou moins, Moïse Katumbi. C'est-à-dire, c'est un peu comme à la Côte d'Ivoire de cette époque, on pensait une fois pour toutes que l'ivoirité c'était contre Alassane Ouattara pour qu'il ne se présente pas. Et maintenant, qu'on aime ou on n'aime pas, les gens se posent des questions, mais pour quelqu'un qui a quand même été gouverneur, qui a joué de tout son poids pour que le mouvement sportif congolais, à travers le tout-puissant Mazembe, reprenne la vitalité et soit mieux connu, est-ce qu'il a un autre pays où il exerce en dehors de celui-là? Tout le monde pense que la congolité de M. Katumbi n'est pas à remettre en cause. Mais je pense que, comme Maître Katende l'a dit si bien, il faudrait qu'on dépassionne le débat et que les pro-Katumbi se disent, nous ou pas nous, c'est pour les générations futures. Parce que demain après-demain, ce ne sera pas Katumbi, ça peut être quelqu'un dont on ne maîtrise ni. Lui, il a prouvé qu'il n'a pas une autre patrie du Congo. C'est-à-dire que c'est vrai que les pays comme Israël, le problème le plus sûr, c'est la nationalité par la mère. Donc la mère est plus sûre que le père. Donc
merci.
Voilà des textes qu'il faut merci. Ajouter dans les lois. Être des mères surtout.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Madame Francine Missengangandou, à Maître Jean-Claude Katende, à Monsieur Josué Blaise Mbangakak d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci aussi à Polydor Basunga qui était à la technique avec la participation de Jean-Claude Nsiala, d'Hervé Voka et de Debs Vita. À la présentation, Guy Maté, sous la supervision d'Alex Essomé, Martin Sebujangwe et d'Etienne Rougeri. Merci et bon week-end sur Radio Kapi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 20h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. On se sépare avec Terre battue de Koffi Olomide dans l'album Oekap, une façon pour nous de continuer à rendre hommage à Papa Wemba qui était intervenu, n'est-ce pas, dans cette chanson, et on se retrouve le samedi prochain.
La terre battue, si toi Maria Papa, à ta un jour, à vos ombres à la crée, il n'y a plus qu'à la. Oh,
Yo mwana, yali polo,